Donc ce travail un peu sur les gilets jaunes a été réalisé au début, donc dans des conditions, en ce qui me concerne, d'extrême précarité, avec même une absence de bourse doctorale. Pour ma présentation, je souhaiterais aborder très brièvement la manière dont le mouvement s'est structuré à Caen, et surtout resserrer la focale autour des socialisations politiques croisées et la dimension vécue inscrite dans l'espace que le rond-point donnait à voir. Je partirai pour cela d'une problématique qui consiste à se demander comment les gilets jaunes ont construit des espaces affectifs propices à la socialisation politique. Autrement dit, comment par la proximité quotidienne se construit une socialisation politique qu'il s'agit de saisir dans ce qu'elle a de particulier, une conscience particulière, puisque le point de départ de ce mouvement est qu'il ne relève pas d'une mobilisation portée par des partis politiques, collectifs ou syndicats. On pourrait peut-être dans un premier temps souligner que cette mobilisation échappe aux entrepreneurs des luttes, aux militants moraux comme le soulignait Doug McAdam à propos d'une autre mobilisation aux États-Unis, à une lecture en termes de mobilisation des ressources, terme qui a été employé par McCarthy et Meyerzald. Le mouvement s'est même construit contre le verrouillage du champ politique avec une population faisant sa première expérience du mouvement social. Il me paraît intéressant de tester avec vous l'hypothèse suivante. C'est-à-dire que la création de lieux de vie et la temporalité un peu étendue du mouvement étaient propices à l'apprentissage du politique par une population peu accoutumée au militantisme. Avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet, j'aimerais donner quelques éléments de méthode qui fondent un peu ma présentation. J'ai fait donc de l'observation participante depuis le 17 novembre, ou participation observante, pour parler comme vacant, sur les ronds-points et durant les manifestations cannaises. J'ai réalisé 35 entretiens biographiques et longitudinaux et construit un peu ce qu'on appelle une monographie du mouvement. Il y a un autre volet de cette intervention, en tout cas des méthodes que je mobilise, c'est-à-dire que j'ai administré avec le collectif cannais, donc composé de géographes des Hauts-Camps et de sociologues du CEREF, donc 218 questionnaires donc en centre-ville et sur les ronds-points à Caen, sur un total, on va dire, de 244 questionnaires si on compte le département de l'Orne. Donc, dans une perspective un peu dialectique et constructiviste un peu de l'espace, il s'est créé à Caen ce que j'appelle des configurations localisées. C'est dans cette dernière que le mouvement circulait, permettant un foisonnement d'initiatives et d'actions parfois même, on va dire, difficile à suivre. Comme on le voit sur cette carte, donc les gilets jaunes se sont appropriés des lieux peu habituels des mouvements sociaux traditionnels, donc des zones commerciales, des zones industrielles, des sites pétroliers, des axes routiers importants, des zones portuaires. Ces espaces ne sont pas, à mon sens en tout cas, sans lien avec les trajectoires résidentielles, et lieux fréquentés au quotidien par les gilets jaunes. Pour moi, ils traduisent des représentations sociales de l'espace liées à la manière dont ces populations périurbaines, voire rurales, font usage de ces espaces. Ces derniers, par ailleurs, se caractérisent par une géographie contemporaine du capital, pour employer une terminologie de David Harvey. Il est également intéressant à souligner que dès que le mouvement recourt à un répertoire d'actions classiques, catégorie employée parti lit, type assemblée générale ou manifestation, cela se fait à l'intérieur du périphérique. Ces dernières modalités d'organisation du mouvement donnaient à voir une recomposition des profils sociologiques, hein, dans la mesure où je constatais la présence de personnes issues de milieux militants ou appartenant à des catégories sociales plus diplômées et urbaine dans le cas de la manifestation. Donc j'évoquais au début de ma présentation la question de la politisation des gilets jaunes. Il me semble très important de revenir à une échelle plus fine pour en saisir un peu les contours, celle du rond-point pour décortiquer un peu ce que s'y jouait. Alors de mes observations ethnographiques, ma participation dans les discussions avec les gilets jaunes, et même durant mes entretiens, je prêtais souvent attention aux raisons qui ont poussé les gilets jaunes à occuper les ronds-points. Pourquoi ces populations populaires et périurbaines, voire rurales, avaient occupé des non-lieux, comme les qualifiait l'anthropologue Marc Auger, des lieux de passage de la marchandise, Contrairement à des représentations du population un peu urbaine de ces espaces, les gilets jaunes cannais, dont 37% habitent dans le périurbain ou rural, selon l'enquête du collectif cannais que j'ai évoqué dans ma méthodologie, ne sont pas étrangers à ces lieux dans la mesure où ils les pratiquent au quotidien. Là où la dépendance à la voiture est maximale pour faire des courses, se rendre au travail, déposer les enfants à l'école, etc. Il y a donc une première piste à creuser qui trouve son fondement dans la pratique spatiale de cette population qui associe réalité quotidienne, le travail, etc., etc., et matérialité spatiale, les réseaux routiers, si on emploie des catégories un peu dialectiques. Maryse est l'une des protagonistes d'un des plus grands ronds-points occupés dans l'aire urbaine cannaise, avec un pic autour de 3000 participants rien que pour la journée du 17 novembre. Elle est divorcée, avec enfant, sans diplôme et actuellement en invalidité. Elle m'explique que les discussions à propos des lieux étaient amorcées sur Facebook avec l'idée d'occuper les ronds-points les plus proches. Vu qu'elle avait changé de lieu de résidence, elle a dû recourir à l'application Mappy. Donc pour retrouver le rond-point le plus proche. D'ailleurs, quand on était pendant l'entretien, elle m'a montré le rond-point de sa fenêtre. Elle fait partie de cette fraction du mouvement qui, faisant sa première expérience d'un mouvement social, comme le montrent par exemple mes entretiens avec les deux tiers de mes enquêtés qui se sont socialisés à l'action collective par le mouvement des Gilets jaunes, même si l'on peut retrouver les traces d'une manifestation par le passé. Je rappelle juste que les Gilets jaunes ne sont pas les premiers à avoir occupé les ronds-points. Les routiers et les agriculteurs l'ont fait, par exemple, en Normandie par le passé. Cependant, la spécificité de cette modalité d'appropriation de l'espace est d'une part sa durée. Donc pour les Gilets jaunes, il s'agissait de s'ancrer dans ces lieux et de durer, même si paradoxalement, les Gilets jaunes ne pensaient pas que le mouvement allait durer au-delà du 17 novembre 2018. Deuxièmement, les transformations sociales de l'espace que cet ancrage a opéré, à savoir transformer des lieux de transition de la marchandise en des lieux de vie où se construit autre chose. Je reviendrai sur ce point précis. Bon, l'occupation des ronds-points dans un premier temps était avec cette chose-là qui venait, cette expression qui venait, si je suis aujourd'hui là, c'est pour être visible. Donc il y a la question de la visibilité. J'ai choisi de me focaliser sur l'un de mes ronds-points que j'appelle le rond-point des précaires. Construit à la lisière de deux communes, ce rond-point se situe à l'est de Caen, non loin des quartiers populaires constitués de grands ensembles que la ville de Caen a vu naître à partir des années 60. Le rond-point est traversé par une départementale, il dessert un dépôt pétrolier et connaît une densité de trafic liée au passage des poids lourds, mais aussi des populations habitant dans les communes avoisinantes et qui y passent pour se rendre au travail ou déposer leur enfant à l'école. Cet emplacement fait que les Gilets jaunes le qualifient de rond-point stratégique. Et c'est ce qui expliquerait par ailleurs la violence des interventions des forces de l'ordre qu'il a connues. Il a été en effet délogé, je crois, le 8 décembre 2018. Donc le noyau dur qui portait le rond-point était composé d'une vingtaine de personnes maximum, nombre qui va décroître de plus en plus. Le rond-point connaît des temps d'affluence et de passage où le nombre de personnes présentes avait varié entre 50 et 100 gilets jaunes, en tout cas durant la première semaine de son occupation le 20 novembre 2018. Donc il s'agit d'un rond-point qui mobilise des personnes dotées de peu de capitaux militants et sociaux, ce qui reflète, si vous voulez, de manière générale la sociographie du mouvement des gilets jaunes, plutôt précaire, en grande difficulté sociale. Mais aussi quelques ouvriers et artisans. Les retraités, ils sont sous-représentés, comparés à d'autres ronds-points. Ils se distinguent par sa population jeune, si on le compare, à d'autres ronds-points. Il s'agit clairement ici d'une population issue de milieux populaires, avec des styles de vie et des préoccupations un peu similaires, ne plus s'en sortir, par exemple, avec les dépenses contraintes, ne pas pouvoir partir en vacances, etc. Je voudrais insister sur l'idée que le mouvement des Gilets jaunes n'est pas représentatif de toutes les catégories populaires, puisque les personnes issues de l'immigration postcoloniale y étaient peu investies. C'est le cas du rond-point des précaires, qui se trouve à proximité d'un quartier populaire, et le mouvement est encore moins représentatif des strates les plus pauvres de la société française. Donc bien qu'il ait connu une durée relativement brève, ce rond-point a constitué un point d'ancrage du mouvement. Un espace devenu lieu de vie où foisonnent les initiatives, les discours et les imaginaires. Ainsi, les Gilets jaunes y ont construit une cabane high-tech, comme ils le disent. La cabane est équipée d'électricité, d'un frigo, d'une gazinière, d'une chambre, d'un canapé. Là, on la voit d'ailleurs là, ce côté-là. J'ai un peu mis une photo, mais on ne voit pas beaucoup. Elle constituait une sorte de maison, pour certains, et un lieu de sociabilité qui les abritait du froid. D'ailleurs, le mot « maison » a été opposé aux forces de l'ordre lors des évacuations. « Pourquoi vous cassez notre maison ?» Le rond-point ouvrait, entre guillemets, donc à 4 heures du matin, avec un blocage des poids lourds qui s'approvisionnait à la raffinerie d'à côté, donc de ce côté-ci. Cette régulation du trafic routier était coordonnée par Talkie Walkie. Donc les différents points violés, etc., ça rigolait pas. Donc le principe était simple. Comme me l'explique Sylvie, donc une gilet jaune d'une trentaine d'années au chômage, vous avez compris que je changeais les prénoms, donc c'est pas les prénoms. On ne bloque pas tout, en fait. Et puis, le but, c'est de bloquer les camions, c'est pas de bloquer les gens qui vont chercher leurs gamins à l'école. Il s'agit ici d'une forme de blocage économique, comme certains d'entre eux et d'entre elles le disent, d'ailleurs. Donc, vers 8 heures du matin, l'heure à laquelle le trafic se densifie, certains automobilistes témoignaient de leur sympathie à l'égard du mouvement, en klaxonnant, en faisant des signes d'approbation par la main. Comme sur d'autres ronds-points, le rond-point des précaires fait l'objet de beaucoup de dons, de sympathisants s'y arrêtaient pour distribuer des sacs de bouffe, ce qui a marqué par ailleurs Sylvie et qui me disait « Je pense qu'il y a des gens qui mangeaient à leur faim grâce au rond-point. Parce que moi, j'ai discuté avec des mamans, il y a des mamans qui mangeaient un repas par jour. » Donc le surplus de nourriture, comme elle me le précisera plus tard, était distribué aux populations les plus fragiles, comme les personnes sans domicile. J'ai évoqué à plusieurs reprises Sylvie, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, le rond-point des précaires était porté par elle. Elle y exerçait ce qu'on pourrait qualifier de forme de, alors, on peut dire ça, de leadership. Voilà. Sylvie arbitrait les conflits sur le rond-point, parfois très violents, comme le jour où un chauffeur de poids lourd avait forcé donc le premier barrage, celui-là. Donc comme le jour où un chauffeur avait forcé le premier barrage et a déclenché des altercations avec un gilet jaune. Elle me précisera par ailleurs que je dégageais les gens qui étaient bourrés, les gens qui voulaient trop bloquer. J'assurais un peu le bien vivre ensemble. Elle communiquait aussi auprès des médias, exerçait un rôle de premier plan dans la division du travail militant. L'idée ici est non pas de dire qu'on est devant un mouvement féministe, qui ne dit pas son nom, mais d'appuyer le fait que les femmes, notamment isolées, réussissaient plus ou moins à s'imposer. Il faut sans doute mieux affiner, parce que je pourrais très bien montrer que sur d'autres ronds-points, la tendance est à l'inverse. Il y a une division nette des tâches entre ceux qui préparent la bouffe, alors... Et pas n'importe quelle bouffe. Hein. Le barbecue, par exemple, est monopolisé par les messieurs, par les hommes. Ceux qui parlent, ceux qui s'interposent ou qui communiquent avec les forces de l'ordre. Ceux qui font des rodéos et des dérapages contrôlés. Oui, ça existe sur les ronds-points, ça aussi. En tout cas, dans le cas de Sylvie, il s'agit d'une personne centrale qui, par ses initiatives, elle s'apparente à une leader. Même si le mouvement, et ça vous le savez, bon, rejette cette catégorie. À ce propos d'ailleurs, elle me dira que cette exposition lui a coûté très cher et impacté sa vie privée, avec des insultes, voire même des menaces de mort. Donc le soir, généralement, les gilets jaunes se dispersent vers 20h, et pour les plus disponibles, ils se retrouvent à 4h du matin en attendant les relais d'autres personnes qui arrivent à 8h, et comme ça tout au long de la journée, avec deux personnes en grande difficulté sociale, avec des fragilités psychologiques, qui dorment sur place. Les premiers résultats de mes enquêtes de terrain montrent clairement que les ronds-points étaient marqués par les groupes localisés. Même s'il s'agissait d'espaces ouverts, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin, comme dans les organisations traditionnelles ou dans certains mouvements sociaux de gauche, de souscrire à minima un certain nombre de valeurs qui font l'identité de l'organisation ou du mouvement social. Ces résultats suggèrent qu'il y a un évitement fort de la politique instituée, au sens de politique partisane, un rejet fort des élites politiques et du militantisme qui se rattacherait à une forme officielle, un évitement des choix électoraux notamment le vote pour l'extrême droite, qui était très présent. Cela ne veut pas dire que le politique comme institution, si on reprend Durkheim, était rejeté. On pourrait peut-être entendre par politique, si on se réfère à des catégories un peu bourdieusiennes, un mode de perception légitime du monde social. C'est-à-dire la perception que se font les gilets jaunes des mesures qui relèveraient de la justice sociale. Baisser les salaires des députés, partage des richesses, RIC, etc. Se construit dès lors une conscience particulière au mouvement qui fait converger des profils opposés entre un gilet jaune ou une gilet jaune tourneur-fraiseur proche de la CGT et un autre intérimaire dans le BTP proche du Front National, il n'y a pas de trame idéologique construite sur un rond-point. On peut ceci dit observer, et c'est tout l'intérêt de ce qu'on appelle un peu, pardonnez-moi, en sociologie des mouvements sociaux, une approche processuelle. L'évolution des discours et des déplacements idéologiques tout au long du mouvement. Je ne pense pas non plus qu'il est fondé empiriquement de parler de rompant antiraciste, féministe, anticapitaliste, au sens idéologique du terme. En tout cas, si on parle de la première composition sociodémographique du mouvement. Quand je dis qu'il n'y a pas de conscience particulière au mouvement, je ne veux pas non plus gommer la question des tensions et des différences. Ce n'est pas parce qu'on se réfère à une idée de la justice sur un rond-point, on rejette la classe politique et on souligne les apories de la démocratie représentative, qui est un oxymore par ailleurs, selon Rancière, que le rond-point, la manifestation ou un autre lieu de lutte, devient la terre promise de la communauté consensuelle. Les données de terrain proposent une autre lecture. Il y a beaucoup de tensions parfois sur des choses extrêmement simples, comme la nourriture. Moi, je me souviens de création de groupes de sociabilité qui s'isolent et qui ne veulent plus manger avec tel groupe parce que, ou des comportements inappropriés, voire des guerres d'égo. Le deuxième point que je voulais aborder très brièvement est celui de la temporalité du mouvement, à savoir que sa temporalité étendue a contribué à façonner ces catégories populaires. Le rythme était extrêmement intense la semaine sur le rond-point, les manifestations le samedi et toutes les discussions qui accompagnent tout cela sur les réseaux sociaux, en assemblée générale. Ces temporalités ont des conséquences sur les individus, que ce soit des conséquences psychologiques, sociales, politiques, et opèrent des basculements biographiques. Je ne parle même pas de l'impact de l'engagement sur la vie privée. Enfin, peut-être pour arrêter là, je pense que la création des lieux de vie et la temporalité étendue, comme je l'ai évoqué pour mon hypothèse, ont été propices à l'apprentissage du politique, tel que je l'ai défini, par une population peu accoutumée au militantisme et qui va se politiser tout au long de la séquence fin 2018-2019. Les différentes configurations ont permis au mouvement de se structurer et de circuler facilement entre les différents espaces de l'agglomération cannaise. C'est très difficile d'ailleurs de suivre le mouvement partout. De même que les autorités étaient mises en difficulté parce qu'il y avait une incompréhension de ce qui se passait, une impossibilité d'intervenir partout. Enfin, j'ai voulu un peu resserrer autour du rond-point pour donner à voir un aspect du mouvement, un aspect particulier. Peut-être que sur la question des revendications... les engagements militants seront peut-être développés par Karine Johan. Donc, sans trop tarder, je m'arrête là. Je vais céder la parole à... Je ne sais pas qui voudrait prendre la parole. Johan, peut-être ? Karine. Si tu voudrais prendre la parole pour revenir un peu sur...
Tu as déjà dit beaucoup de choses, je trouve.
Mais ça serait aussi intéressant... De voir comment vous articulez un peu votre vision du mouvement, ce qui a pu se passer, comment tu...
Donc bonjour, donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est construit. Moi je ne suis qu'une pierre à l'édifice comme tous les gilets jaunes qui ont participé. Ça a débuté en amont du 17 puisqu'on a beaucoup discuté de comment on allait faire, où est-ce qu'on décidait de faire les blocages, parce que vous avez des personnes qui voulaient faire des blocages plus, on va dire, plus, moins durs, et d'autres personnes qui décidaient de bloquer total. Donc voilà, il y a déjà eu une séparation au départ entre ceux qui voulaient bloquer de façon dure et ceux qui voulaient bloquer de façon, on va dire, plus, plus fluide. Voilà. Le 17, avant le 17 novembre, il y a une réunion pour décider du rond-point qu'on allait occuper. Et le 17 novembre, donc au matin, à 5h, on était sur le rond-point et ça a commencé comme ça. Donc suite à ces prises de rond-point, il y a eu les blocages, il y a eu la première assemblée. Alors j'essaie de vous faire rapidement. En décembre, il y a eu la première assemblée générale où il y a eu constitution de commission. Donc il y avait la commission communication, la commission action, la commission logistique, la commission banderole, etc. Il y en avait d'autres encore. Enfin, il y avait 5 ou 6 commissions et chaque commission s'occupait chacune d'un problème particulier. Commission anti-REP, très importante, la commission anti-REP, je vous en dirai 2 mois après. Et fin de semaine, il y avait une réunion de toutes les commissions afin de pouvoir mettre ensemble toutes les idées dont on avait pu parler dans la semaine, afin de pouvoir mettre en place les choses du week-end, les actions, les manifestations, etc. Commission anti-REP très importante. Pourquoi ? Parce que la commission anti-REP a récolté des fonds afin de pouvoir aider les personnes qui étaient emprisonnées, mises en prison ou ayant des amendes, parce que c'est arrivé de nombreuses fois. Je crois que c'est à peu près, voilà, la commission anti-REP, c'est à peu près le rôle qu'elle jouait. quoi dire d'autre ? T'as dit tellement de choses déjà.
Peut-être la raison qui t'ont motivé, toi.
Ah, les raisons qui m'ont motivé, moi, alors c'est très simple. Moi, à l'époque, je n'étais. Disons que j'avais une vie, on va dire, relativement aisée par rapport à certains. Hein. Je n'étais pas en difficulté financière du tout. Pour moi, la vie était belle, tout allait bien. Mais c'est vrai que depuis des années et des années, je me rendais compte que j'avais l'impression d'être à côté de la vie. J'avais l'impression de ne pas être dans le monde où je devais être. Il y avait quelque chose qui ne m'allait pas. Et en fait, le mouvement des Gilets jaunes m'a amené à réfléchir sur ce pourquoi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la politique qui était menée ne m'allait pas du tout. Que je me rendais compte que c'était une politique qui était menée contre les individus. En majeure partie, la plus grosse partie, parce que pour certains, ça va plutôt bien. Et donc, moi, je suis sortie pour le prix de l'essence, mais en fait, le prix de l'essence, très franchement, j'en avais rien à faire. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment tout ça allait évoluer et espérer que ça allait beaucoup plus loin. Et le beaucoup plus loin, c'était quoi ? C'était reprendre la parole, décider enfin de ce que nous, on voulait, se faire entendre, et surtout qu'ils nous écoutent, parce que franchement... nous entendre, c'est bien, mais quand il faut semblant d'entendre que la moitié de ce qu'on dit, c'est un peu compliqué. Voilà, donc il y a un moment donné, on a cru qu'effectivement, on pourrait peut-être arriver à ce qu'ils nous écoutent et au moins à ce qu'ils mettent en place, par exemple, un référendum d'initiative citoyenne en toute matière, parce que nous, c'est ce qu'on voulait. Pourquoi en toute matière ? Parce que ça leur donnait une obligation, on va dire, deux résultats pour simplifier les choses. Voilà. Parce que, je veux dire, on va voter pour un président, il est élu. À partir du moment où il est élu, il prend toutes les décisions pour nous tous. Et à aucun moment, il n'a envie d'entendre si notre avis est positif ou pas par rapport à ce qu'il fait. Il ne veut pas l'entendre. On a vu avec le référendum de 2015, hein, la Constitution européenne, on a voté non. Ils ont dit « Ok, pas de souci ». On ne le fera pas. 2 ans après, ils ont changé le nom du traité, ils nous ont passé l'Europe, et terminé, c'était fini, c'était plié, on n'avait pas rien à dire. Et c'est ce qu'ils font tout le temps. Là, le prix de l'essence a augmenté, le prix des matières premières a augmenté, tous les achats que l'on peut faire en grande surface ont augmenté, et je ne parle pas évidemment du gaz et de l'électricité. Le gaz, on est à plus de 30% d'augmentation, l'électricité, je ne sais plus combien. Et très franchement, enfin, je ne sais pas quel effet ça vous a fait, vous, mais moi, quand j'entends dire... que Castex, non, c'est Castex qui a décidé de bloquer les prix, c'est ça, c'est Castex, il me semble, ouais, oui, c'est, bah, ça peut être que lui, je pense. Donc, il a décidé de bloquer les prix, enfin, en attendant, il a quand même laissé l'augmentation se faire en grande majorité, avant de dire, ah bah oui, mais non, c'est pas bon. Alors que la première augmentation, qui était déjà de plus de 10%, je trouve qu'elle a été suffisamment importante pour que déjà, ils mettent le haut là. Mais non, ça les intéresse. Pourquoi ? Parce que les profits qui vont être faits, eux vont piocher dedans et vont se servir de cet argent pour soit le budget, soit créer, je sais pas, les commissions, ils ont l'habitude. Hein. Là, on a vu la dernière, là, le comité de défense sanitaire, excusez-moi, mais enfin bon, je suis pas sûre qu'on soit obligé de payer des gens pour nous dire que ça va ou que ça va pas. Voilà, je pense que quand on a un métier, quand on est président de la République, je pense qu'on doit savoir à qui s'adresser sans avoir à dépenser de l'argent pour avoir des réponses aux questions qu'ils peuvent se poser. Voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais dire ? Je ne sais pas.
Dans les discussions qu'on avait ensemble, tu parlais d'une thématique qui t'apportait un peu beaucoup, à savoir la question du pouvoir d'achat.
Oui, oui, parce que moi, je me sentais... Enfin, moi, j'étais pas mal financièrement à ce moment-là, mais ça n'empêche que je connais des tas de gens qui galèrent, hein, pour dire le mot tel que. C'est-à-dire que ben, quand le début du mois arrive, très bien, le salaire il tombe, on est content. On va acheter un morceau de viande, et puis après on va payer les factures, et puis le reste du mois on va manger des patates ou des pâtes. Alors quand nous on l'a dit, ça a fait rire, hein, on a pu voir que l'Assemblée ça avait bien fait rire. Seulement ils l'ont récupéré à leur compte, puisque les députés ont demandé une augmentation, parce qu'à la fin du mois, ils mangeaient des pâtes, avec les salaires qu'ils ont, les frais annexes qu'ils ont, parce que ça fait quand même à peu près 12-13 000 euros par mois. Quand vous entendez ces gens-là dire ce genre de choses, et qu'en plus on leur donne 150 euros de plus, eh ben, vous vous dites de qui on se moque ? Eh ben, on se moque de nous. Donc, à un moment donné, bah, il va falloir trouver les bonnes solutions pour pouvoir faire avancer les choses dans le bon sens, c'est-à-dire dans notre sens à nous et pas dans leur sens à eux. Voilà. Alors, j'espère qu'on les trouvera un jour. Pour le moment, je vous avouerai que nous, on a essayé beaucoup de choses. Beaucoup. Rien n'a marché, puisque qu'est-ce qu'ils ont fait ? Quand ils ont vu que ça allait être trop fort pour eux, ils ont utilisé la force, la police, et vous avez vu ce que ça a donné, hein, les yeux crevés, les personnes handicapées, plus de mains, enfin... Enfin voilà, c'était une force, je dirais, inappropriée par rapport à ce qui se passait, parce que pour moi, elle est illégitime. À la limite, on y serait allé avec des fusils, je peux comprendre. Mais là, on était les deux mains dans les poches. Hein. Bon, ok, il y a une ou deux canettes de jetées, une ou deux pierres de jetées, moi je veux bien. Mais quand vous voyez comment ils sont arnachés, c'est des robocops, hein, les policiers, il ne faut pas croire. Hein. En manifestation, c'est pas vous et moi, hein. C'est des robocops. Ils ont des boucliers, vous prenez un coup, vous voulez à 3 mètres. Hein. Donc, il y a un moment donné, il faut pouvoir relativiser les choses et faire un usage proportionné de la force, surtout. Ce qui n'est pas le cas, puisqu'on a pu voir que c'était du démesuré chez eux. La chasse était ouverte à partir du moment où il était 18h, 18h30, qu'il y avait un peu moins de monde, la chasse était ouverte. Ah, ils se sont fait plaisir. Hein. C'est la chasse, je sais pas, au lapin, au chevreuil, je sais plus. Enfin, ils devaient compter, à mon avis, ils devaient compter les points, certainement. Et croyez-moi, il y en a qui se sont fait plaisir. Oui, je suis désolée, c'est un peu... C'est vrai que Sharif a dit beaucoup de choses et j'ai pas eu vraiment le temps de préparer une intervention de 15 minutes. En plus, c'est assez lourd. Donc...
C'est une question. Quel rôle, en fait, par exemple, toi, tu as joué dans la mise en lien des gens et dans la structuration du mouvement? Est-ce que tu avais un en particulier?
Alors, au départ, moi, structuration, j'ai fait comme tout le monde. Si tu veux, j'ai amené ma petite pierre à l'édifice et chacun a amené sa petite pierre à l'édifice et c'est comme ça que ça s'est construit. C'est pas une personne qui a décidé d'eux, c'est toutes les personnes qui ont fait que. Moi, je dirais que la seule chose que j'ai essayé de faire à côté et qui a été très compliquée, bon, j'ai réussi une partie, mais pas la totalité, c'est que j'ai essayé de faire un maillage entre les différentes régions de France pour essayer de faire des actions tous ensemble en même temps. Mais alors ça, c'est pareil, c'est très compliqué, parce que selon les régions, selon les personnes, il est difficile de mettre en place des actions qui puissent être faites par tous au même moment et le même jour, enfin voilà. Donc ça a été... Mais bon, il y a quand même un maillage qui a été fait qui n'était pas inintéressant. Et puis ben, j'ai participé aux commissions, hormis la commission anti-REP, j'ai participé à de nombreuses commissions avec d'autres d'ailleurs. Les manifestations forcément, les blocages aussi, parce que... Moi, je suis allée sur le rond-point des Piatons, parce que c'était mon choix. Et le 17 novembre, ce qu'on a fait, c'est le 18 novembre, parce que le 17, c'était, on va dire, la mise en route. Hein. Et le 18, on est arrivé à 5h du matin, on était deux. On a commencé à arrêter le premier camion, lui demandant s'il voulait un café. Il a dit oui. Il s'est arrêté. On lui a demandé s'il voulait bien couper son moteur. Il a dit oui. Donc on lui a donné son café. Puis on a un deuxième qui est arrivé. On lui a fait la même proposition. Puis un troisième, puis un quatrième. Et on s'est retrouvé avec un ralentissement, enfin un blocage plutôt de 5 à 6 km, puisqu'apparemment ça a atteint le périphérique. Donc ça devait. C'était pas mal. Voilà, ça c'était le premier jour, et puis après, ben, ça a continué comme ça, et puis ben, il y en a qu'on commence à en avoir marre, donc il y a ceux qui ont voulu forcer les barrages, il y a eu des accidents d'ailleurs. Moi j'ai une jeune fille qui est bloquée avec moi un jour, une voiture a pris le petit terre-plein du milieu, a foncé, elle avait une remorque derrière, si je n'avais pas tiré la jeune fille, elle serait morte à l'heure actuelle, hein. Elle serait passée dessous. Donc voilà, c'était aussi très dangereux de le faire, parce que certains n'avaient pas la patience. Ce qui est compréhensible aussi, hein, on peut le comprendre. Mais enfin, il y a un moment donné, il faut faire un choix entre ce qu'on veut pour notre vie future et la vie à tous, et ce que l'on veut pour notre vie immédiate. Et je pense que la vie future est beaucoup plus importante que juste notre vie immédiate. Mais ça reste un avis personnel.
Tu me parlais aussi du fait que avant le 17 novembre, c'est-à-dire avant l'émergence du mouvement un peu sur les rangs, etc., etc., il y avait toute une préparation en amont du mouvement.
Oui, parce qu'on avait pris des contacts sur Facebook et on s'est réunis deux fois, justement pour mettre au point ce fameux 17 novembre, savoir comment on allait le mettre en place, comment on allait faire les blocages, quel rond-point on allait prendre, hein, parce que c'était ça, la prise des ronds-points. Et puis voilà, essayer de voir un peu quel rôle chacun pourrait jouer à l'intérieur du rond-point. Mais les rôles étaient plus ou moins tous les mêmes, puisque en fait, début de matinée, vous aviez les premiers qui faisaient les blocages, ensuite vous en avez d'autres qui arrivaient et qui remplaçaient, et c'était comme ça toute la journée. Donc vous avez ceux qui faisaient. Et puis après, vous aviez des discussions sur le rond-point, où là, on discutait effectivement. Du prix de l'essence, du prix des loyers, des taxes, enfin de tout ce qui fait que ça nous pourrit la vie. Quoi. Voilà. Et c'est de là que nous est venue l'idée de dire, mais il y a un moment donné, il va peut-être falloir qu'on reprenne les choses en main et qu'on fasse ce qu'il faut pour qu'ils nous écoutent et que nous puissions décider aussi de ce qui se passe et de ce qui va arriver. Parce que passer des lois... Ça passe vite. C'est comme les revendications. Vous voyez, ils ont dit qu'il y avait beaucoup de revendications. Mais si on regarde bien dans le mouvement des Gilets jaunes, effectivement, il y a eu les taxes, il y a eu le prix de l'essence, il y a eu le prix des matières premières, des produits de première nécessité. Il y a eu beaucoup de choses. Mais si on regarde bien tout ça dans sa globalité, ça ne ramène qu'à une seule chose, c'est le pouvoir d'achat. C'est tout. Quand ils ont dit qu'ils ne comprenaient pas ce que nous voulions, c'est parce qu'ils ne voulaient pas comprendre. Pourtant, on l'a dit assez fort. On a essayé toujours. Voilà.
Alors, il te reste encore 2 minutes. Soit si tu veux qu'on passe la parole à Johan. C'est comme tu veux.
Je t'en prie, Johan.
Faire 15 minutes de silence ou pas?
Oui,
non, je vais même essayer de faire plus court parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens ici qui ont des choses aussi intéressantes à dire que nous, enfin, ou que moi en tout cas. Moi, je remercie Sharif de m'avoir convié à venir m'exprimer, mais là, c'est moi, je suis représentant de rien du tout et porte-parole de rien du tout. C'est vraiment en tant que. À titre personnel, je viens ici partager juste mon expérience en tant que militant et artiste au service du mouvement des Gilets jaunes. Voilà. Donc c'est aussi pour élargir un peu le l'angle de vue lors de cette rencontre-là et qu'on puisse aussi discuter, puisqu'il y a plein de choses à dire et plein d'ouvertures à voir sur ce qui ça peut advenir dans le futur ou pas. Moi, je ne suis pas dans le mouvement des Gilets jaunes. Je n'étais pas là le 17 novembre parce que Moi, je suis pas sur les réseaux sociaux et ce que j'avais entendu dire, c'était que c'était l'extrême droite qui voulait faire des manifs de béni oui oui sur les ronds-points et traverser là sur les piétons. Il y avait des histoires aussi de rester sur les passages piétons pendant plusieurs heures. Enfin, j'avais entendu ça, j'y étais pas. Par contre, dans mes proches, dans ma famille, on a pu tout le week-end. J'étais à Saint-Loup dans la Manche. Discuter, voilà, mon tonton motard par contre m'a convaincu que c'était pas que l'extrême droite qui était là, et je me suis dit, ah, du coup je vais aller voir. Le dimanche je suis allé voir à Saint-Lô et puis après à Caen, et en fait dès lundi j'ai pris mon vélo et mon enregistreur là comme ça là, et je suis allé tendre le micro. Donc pas, moi je suis pas journaliste, je suis artiste ou journartiste, je fais du son pour Radio Bazarnam aussi, mais voilà, c'est un espace, un média indépendant et libre. Et j'avais surtout envie que le retournement de point de vue que j'avais effectué en 48 heures, il y ait plein de gens autour de moi qui avaient les mêmes a priori, en fait, qui fassent ce retournement-là. Donc j'ai tendu le micro et donc c'était j'ai atterri au rond-point le plus proche de chez moi à l'époque. C'était au rond-point de Bretteville. Sur Odon, j'ai passé la matinée là-bas et c'était super riche, voilà, entre des soignantes, retraitées, personnes recevant l'allocation adulte handicapé et rejetées de tout, artisans, intérimaires. En tout cas, je me sentais proche, enfin socialement, humainement, proche des gens que j'ai rencontrés ce jour-là. Il y avait aussi des gens issus de l'immigration. Et qui n'avait pas le profil de ce qu'on pouvait raconter dans les grands médias. Et donc j'avais envie de le montrer. Donc dans la foulée, j'ai monté l'émission et j'ai diffusé le soir même sur Radio Bazar, en fin de journée. Et le soir, je suis retourné, j'y vais pas souvent, mais je suis allé ce soir-là au théâtre d'Hérouville. Et je me suis fait chier parce que j'avais en face de moi des gens du milieu de la culture. Moi, je fais plutôt partie des gens plutôt des milieux indépendants ou plus alternatifs dans la culture, mais il y a quand même une forme de bourgeoisie. Là, en tout cas, au Théâtre des Rouilles, c'était ça. Et et je me sentais mal d'être là, et je me suis cassé à la mi-temps du spectacle, parce qu'en plus, c'était un spectacle long. Les grands et beaux spectacles, ils sont longs. Donc, je suis parti à la mi-temps pour retrouver là où je me sentais bien, au rond-point de Bretteville. Et là, il y avait les gens, il y avait une toute autre ambiance, parce que c'était la nuit, parce qu'il y avait du son, parce qu'il y avait de l'alcool, parce qu'il y avait les gens qui venaient de se faire virer du rond-point bleu qui était là. Donc là, il y avait deux ambiances de deux ronds-points différents, on va dire. Et donc j'ai attendu un peu, je suis allé discuter et j'ai sorti l'enregistreur à nouveau pour faire la suite. Et là, j'ai eu affaire à des mecs avec des bouts de bois, palettes et clous, qui ont voulu me virer parce que j'étais un sale journaliste, collabo, BFM, TF1, etc., mange-merde. Et là, je me dis, non, je suis pas journaliste, moi, ouais, ta gueule, t'as un micro, t'es un journaliste, quatre coins de là, c'est mon rond-point, etc. Donc, moi, j'avais le gilet jaune, puisque c'était pas un costume, c'était pas une couverture. Si je le mettais, c'est que je me sentais, j'avais adopté... ce mouvement, voilà, je m'en faisais à la partie intégrante. J'ai voulu un peu discuter politique avec lui, mais ça, voilà, un bon gros bœuf, un facho, voilà, simple, c'est la vision que j'en ai eue à ce moment-là. Il avait ses potes bourrés aussi qui ont voulu me virer. Moi, je suis resté là. Les gens que j'ai interviewés sont barrés, mais je suis resté quand même. J'ai rangé le micro. Bon, j'ai vu qu'il y avait. Et donc, peu de temps après, je suis rentré chez moi en regardant quand même derrière moi. Je vous la fais courte sur l'altercation, mais en tout cas, sur cette première journée, j'estimais avoir vu une vision assez large de ce que pouvait être ce mouvement-là. Et là, j'ai commencé à dire aux copains, aux copines, que ce soit dans le milieu des artistiques et dans le milieu militant, les copains, les copines, faut qu'on y aille, faut pas qu'on laisse ça aux fachos, quoi, voilà. Et donc, petit à petit aussi, il y a eu, je suis retourné sur d'autres ronds-points pour voir comment ça se passait. J'ai pas vraiment vécu sur les ronds-points, c'est ce moment un peu de famille, de rencontre, mais plutôt aussi là pour aller faire de la propagande plutôt, et avec copines ou copains qui avaient des tracts sur le avec du propos plutôt social et émancipateur, là, plutôt antiraciste, pour aussi élargir un peu et dépasser le cadre du propos juste non à la taxation des... non à la loi, cette taxe sur les produits pétroliers, etc. Et il s'est passé un certain temps avant que je me montre ou que j'intervienne en tant qu'artiste ou monsieur passe-moi le mot. Voilà, il y a eu une période aussi, on a monté une médictime, c'était avant les secours citoyens, etc. Il y a eu de la médic aussi, assez discrète, notamment le 8 décembre quand ça a cartonné et qu'il y a eu les premiers flashballs ici à Mondeville, à Caen, et le premier blessé. Donc voilà, là c'était plutôt discret, et petit à petit, en allant aux manifs, moi pour avoir pratiqué les manifs depuis quelques années, ce qui manquait, j'avais l'impression, j'étais pas le seul, c'était aussi des mots, les personnes qui ont voulu prendre la parole, soit s'autoproclamer porte-parole, soit essayer de toute bonne foi d'essayer de structurer, de dire les choses se sont faites pour certains, en tout cas les premières semaines, ont pu se faire rabrouer, ou d'autres ont compris qu'il fallait pas essayer de prendre plus de place que d'autres. En tout cas début décembre, je suis venu, pas en civil, mais en costume, parce que là, en costume avec monsieur passe-moi le mot, donc Slam Timbant, qui est porte-parole, passeur de mots, c'est la fonction que j'ai déjà quand je fais mon métier en tant qu'artisan du spectacle, mais là, j'avais envie de collecter la parole des gens qui avaient tant de choses à dire et qui estimaient... être pas écouté, ou alors pas avoir le droit ou la légitimité de causer, ou pas avoir les mots. Donc j'ai mis mon humble savoir-faire artisanal au service des gens qui étaient là. Mais j'ai commencé par parler moi, et pour la meilleure façon de se présenter, c'est de dire un truc. J'ai commencé par dire un truc. Et là, je me suis fait rembarrer direct, parce qu'il y en a un dans la foule qui me dit « Ouais, t'es qui toi? D'où tu causes? Tu joues sur quel terrain ?» Et donc, j'ai dit « Ouais ». Alors, j'ai feinté en disant « Oui, c'est plutôt Stade Malherbe, mais en fait, mon vrai quartier, c'est La Mosse. » Voilà, parce que là... voilà. Et donc, j'ai dit « Mais attends de voir de quel bois je me chauffe, et après, on en discute, etc. » Et donc là, j'ai balancé mon premier texte, et... avec mon cœur et mes tripes. Et ensuite, là, beaucoup de gens sont venus me voir en me disant que ça leur faisait du bien aussi, ce type de propos et de paroles. Et j'ai commencé à collecter les coups de gueule, les coups de cœur, les revendications. Ça mélangeait un peu le cahier de doléances, où il pouvait y avoir un peu de tout et n'importe quoi, ou aux formes un peu plus artistiques ou poétiques. Et après, justement, le plaisir pour moi était de porter ces paroles-là devant la préf ou devant les flics, en leur en mettant évidemment plein la tronche. Et en ayant vu que j'avais le costume, j'étais pas un individu lambda qui pourrait appeler comme ça. J'ai déjà eu des soucis avec la justice à cause de ça, pour trouble à l'ordre public ou incitation à la révolte, ou outrage, ou machin, enfin voilà. Là, à partir du moment, mon expérience et mon casier judiciaire ont fait que, en tant que, quand c'est un costume et un personnage, je peux aller beaucoup plus loin, et là, je pouvais aller beaucoup plus loin qu'en tant qu'individu qui aurait été considéré comme meneur ou porte-parole, etc. Et donc, c'était encore plus jouissif de leur remettre plein la tronche. Et c'est devenu comme un petit rituel, mais j'ai tenu aussi à ce que ce rituel ne se fasse pas à chaque fois, pour pas que ça devienne la messe et qu'on ne voit pas toujours que ma gueule. Et notamment aussi parce que même s'il y avait des gens qui recevaient chaleureusement, qui s'appropriaient ma fonction, en fait, c'est pas moi en tant que personne, mais cette fonction-là de on écrit ensemble, et puis moi je suis la voix d'eux à l'instant T. Il y avait aussi très concrètement, il y a la manif, mais la manif est, après la manif, il y a des actions. Quel type d'action? Il y a des gens qui ont bossé en comme action. Et des fois, à la fin de manif, il faut tracer, il faut aller vite à un endroit. Et le fait que je prenne la parole et que ça dure 2, 5, 10, 15 minutes, ça casse la dynamique. Et donc aussi, des fois, il fallait aussi se coordonner. Autant je pouvais être bien placé pour dire là il y a action à la prison, là il y a action ou action surprise ou rendez-vous ici ou là, là du coup c'était, ça rendait service au mouvement que ce soit que le, cette parole soit passée. Autant si on devait aller rapidement à un endroit, et ben ça cassait la dynamique que je reste là à faire le show, parce que le but pour moi c'était pas de faire un spectacle, j'en fais déjà assez dans ma vie, c'était que ça ait du sens là, et c'est plutôt que ce soit aussi porteur de que ces paroles-là soient porteurs de sens et plus, aillent plutôt dans le sens de enfin, soit galvaniser peut-être à un moment, rassembler aussi, parce que le mouvement, enfin, à titre personnel, manifester à côté de l'extrême droite, c'est quand même, c'était la première fois de ma vie que je pouvais manifester avec les drapeaux normands, français, des gens qui étaient, qui n'avaient pas du tout les mêmes idées politiques que moi. Et dans les petites annonces aussi, je mettais un point d'honneur à ce que alors aucun facho m'a laissé de mots avec des revendications propres à l'extrême droite. Par contre, à chaque fois, je tenais à ce qu'il y ait la petite dose antifa quand même. Et alors c'était un peu tendu parce que petit à petit on identifiait un peu quels étaient les plus vénères fachos, et leur dire, autant dire ça devant les flics et sous les caméras du préfet, c'est ça posait pas de problème, mais devant certains fachos ça pouvait être plus compliqué. Mais au fur et à mesure on sentait bien, voilà, que le mouvement n'était pas par essence, il était multiple, mais n'était évidemment pas d'extrême droite par essence, et surtout l'extrême droite était minoritaire. Donc c'était du coup à chaque fois encore plus agréable de leur en mettre plein la gueule. Voilà, c'est jouissif, j'ai déjà dit, donc je trouve un autre mot. Voilà, en gros, je ne sais pas sur les différentes questions. J'ai dit que j'essayais de faire moins de 15 minutes, et après il y aurait des questions peut-être par rapport.
Deux minutes, si tu veux revenir sur la. Parce que tu as évoqué à un moment donné la tension que ça suscitait dans le milieu militant. Et comment toi tu as appréhendé cette chose-là entre ce que tu voyais par exemple sur le terrain, c'est-à-dire en fait des catégories populaires qui se mobilisaient pour une question sociale, et la compréhension que faisait le milieu militant en fait de ces gens-là, notamment le milieu, on va dire, un peu rapidement radical.
Bah, que ce soit dans le milieu radical ou dans le milieu, le milieu militant propre ou le milieu artistique aussi, moins sphère professionnelle, de manière différente, en tout cas, il y avait des a priori et des gens qui se sentaient, soit qui se sentaient pas à leur place là-dedans parce qu'il y avait l'extrême droite et il fallait pas y aller, et puis dans un second temps, c'est parce qu'il y a l'extrême droite qu'il faut aussi aller là-bas. Après, il y a des gens là-dedans qui apprécient, qui préfèrent être dans un mouvement plus radical et plus pur, même s'ils sont 10, et d'autres qui préfèrent militer à l'intérieur du mouvement pour élargir des revendications et faire en sorte que ce mouvement ait du sens. Donc la convergence, il y en a qui préfèrent la convergence à 10, d'autres qui la préfèrent à 100, d'autres qui aimeraient bien qu'elle soit à 1 million, mais à partir du moment où on commence à être plus de 10, il y a forcément des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec nous. Et donc, ça a été l'éternelle question de comment on compose avec ça. Mais ça, c'est propre à tous les mouvements sociaux depuis toujours. Et donc, on se retrouve à faire des fois des AG, plusieurs AG. Il y a l'AG convergence noire, l'AG convergence rouge et noire, l'AG convergence jaune. Voilà. Et donc, il n'y a que des AG de convergence qui ne convergent pas ensemble. Et donc ça veut dire qu'on fait de la politique et qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à militer avec d'autres, voilà. Mais bon, pas plus dans ce mouvement des gilets jaunes que dans d'autres. C'est toujours comme ça, et c'est toujours comme ça qu'un mouvement social se pète la gueule. Après, sur dans mon milieu professionnel, on va dire, c'était plutôt un problème de classe sociale, j'ai l'impression. Des gens qui ne se sentaient pas à leur place dans ce mouvement. Alors, soit parce qu'ils avaient trop regardé la télé, on leur a dit qu'il y avait des méchants Violeurs, pédophiles, antisémites, islamistes, etc. Et qu'il fallait pas y aller. Et soit parce que concrètement, il y avait une non reconnaissance de classe. Et même si on a dit que c'était quand même les prolos, mais pas trop quand même, parce que c'est plus les classes moyennes. Alors ils sont moins légitimes. Il y a eu plusieurs en fonction des lieux. Évidemment, il n'y avait pas que des que des prolos là-dedans, mais le travail aussi, voilà, dans l'entourage, ça a été de dire, bah, allez voir et puis trouvez votre place si vous estimez que les revendications, il y a suffisamment de revendications qui vous conviennent. Et, donc voilà un peu le travail aussi à l'extérieur du mouvement qu'il y avait à faire.